Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et ce matin, nous attendons vos commentaires et vos témoignages après la journée d'hier en Guinée, journée particulièrement violente. Selon nos informations, 5 personnes sont mortes lors des manifestations de l'opposition contre l'éventualité d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Le bilan du gouvernement fait état de 2 décès. Il y a eu également des dizaines de blessés, un grand nombre d'arrestations. En tout cas, l'opposition et la société civile appellent d'ores et déjà à la poursuite des manifestations, alors que la présidente annonce que le chef de l'État s'adressera prochainement à la nation. Alors vous qui êtes sur place, dites-nous comment vous avez vécu la journée d'hier. Que vous inspire ce bras de fer entre l'opposition et le pouvoir? Vous continuez à nous rejoindre ici à Paris au 33 9 693 693 70. Des centaines de témoignages sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Kevin nous a contacté de Kinshasa, nous l'avons donc rappelé. Bonjour Kevin.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Kevin, en République démocratique du Congo, quelles sont vos questions?
Alors, le Rwanda, à travers l'entreprise Mara Group, s'est lancé dans la production de smartphones 100% africains. C'est là que j'aimerais savoir, les capacités des smartphones rwandais sont-elles comparables à celles des grands groupes comme Samsung ou Apple, ou aussi comment expliquer que les smartphones fabriqués au Rwanda soient plus chers que ceux des autres marques fabriquées hors continent, par exemple?
Effectivement, c'est vrai qu'ils sont un peu plus chers, vous avez raison Kevin. En tout cas, la première usine de production de smartphones 100% africain a été inauguré la semaine dernière en présence du président Paul Kagame. Bonjour Dominique Douzonnet.
Bonjour Juan.
Dominique Douzonnet, notre expert en nouvelles technologies. On vous retrouve d'ailleurs tous les matins dans la matinale avec votre chronique sur les nouvelles technologies. Pour planter le décor, il faut déjà souligner à Kevin que ces smartphones made in Africa arrivent sur un marché très prometteur.
Oui, avec une population estimée à 1,4 milliard d'individus à l'horizon 2021 et un continent qui mettra en circulation d'ici à 2 ans 1 milliard de smartphones environ, et bien oui, l'Afrique est devenue cette place de marché incontournable pour toutes les entreprises high-tech et télécoms de la planète. Mais côté innovation, l'Afrique s'est innovée, comme nous le démontre aujourd'hui l'entreprise Mara Group, cette firme créée par le millionnaire ougandais Ashish Thakkar, qui est basée à Kigali, a donc officiellement inauguré la semaine dernière la première usine de production de smartphones 100% africains. Et si ces mobiles fabriqués au Rwanda sont effectivement plus chers que ceux des autres marques, eh bien, ils sont capables pourtant sans problème de rivaliser avec les Samsung bas de gamme, dont le moins cher coûte 50 000 francs rwandais, et les smartphones sans marque à 35 000 francs rwandais, mais aussi avec les derniers appareils de la firme Apple, quel que soit l'endroit de la planète où on les achète, sont eux, en revanche, hors de prix.
Horriblement chers, effectivement. En tout cas, le président de Mara Group assure que les Africains sont prêts à payer un peu plus cher pour acheter des smartphones de qualité made in Africa. Le Rwanda, si mes chiffres sont bons, Dominique Desonnet, compte produire 1200 de ces smartphones par jour.
Oui, effectivement. Et les premiers mobiles sortent déjà des lignes de montage. Alors comment le groupe compte-t-il faire face à la compétition de la téléphonie low cost sur le continent? Contrairement aux nombreuses entreprises en Égypte, en Éthiopie, en Algérie ou encore en Afrique du Sud qui assemblent des smartphones en marque blanche pour le compte des grandes enseignes de la téléphonie mondiale, l'entrepreneur du Rwanda estime, lui, que le made in Africa a plutôt de l'avenir. Nous fabriquons les cartes mères, nous maîtrisons tout le processus. Il y a plus de 1000 pièces par téléphone, déclarait Ashish Thakkar, en précisant que les marathons changeraient la donne en Afrique. Nous stimulons ainsi l'industrie sur le continent, nous créons des emplois, et surtout quand les gens ont des smartphones de haute qualité, eh bien ils profitent de l'inclusion financière, de l'éducation numérique, des services de santé à distance, des services en ligne pour l'agriculture et des plateformes africaines du commerce électronique.
Donc des smartphones qui n'ont rien envié aux autres grandes marques internationales. international. Pour l'instant, il y a deux modèles hein, qui sortent des lignes, qui sortent de la production rwandaise, le Mara X et le Mara Z.
Oui, alors tous deux avec des batteries de longue durée, des mémoires de haute capacité, des caméras de précision et des écrans de haute définition. Ces mobiles intègrent chacun un système de reconnaissance faciale permettant de les déverrouiller. Les deux smartphones sont équipés du système d'exploitation Android avec son cortège d'applications que propose par défaut la firme américaine Google. La version Z avec un processeur plus puissant est vendue 175 750 francs rwandais, soit 173 €, et le modèle X coûte l'équivalent de 118 €. Par ailleurs, le PDG de Mara Group espère, avec cette production Made in Africa, donner un petit coup de pouce aux ambitions du Rwanda à devenir un pôle d'excellence technologique dans toute la région.
Kevin, à Kinshasa, vous seriez prêt, vous, à payer un peu plus cher pour avoir un téléphone, un smartphone Made in Africa ?
Tout à fait, même si on aimerait aussi savoir les incidences sociales sur le peuple africain de cette entreprise de la production des smartphones ici en Afrique, parce que nous aimerons aussi que les effets sociaux se fassent sentir aussi en Afrique. Voilà.
Oui, il y aura forcément des répercussions économiques des entreprises, cela crée forcément des emplois.
Forcément des emplois, ça crée aussi, ça stimule l'innovation sur le terrain, même dans de nombreux pays africains. Il y a un énorme besoin de développeurs, de systèmes qui permettent de faire fonctionner ces smartphones. Voilà, c'est un peu tout ça, c'est une aventure qui commence.
Oui, une aventure qui commence et qui ne fait que commencer, hein, puisque le président Mara a déjà annoncé qu'une deuxième usine de smartphones 100% africains sera prochainement ouverte à Durban, en Afrique du Sud. Merci Dominique Dezonnet. Bonne journée à Kevin qui nous appelait de Kinshasa, 10h17 à Paris. On repasse au standard, au 33 9 693 693 70. Thomas Schnell en parlait à l'instant dans son journal. Le président équatorien qui a donc fini par abroger cette loi qui est à l'origine d'une contestation sans précédent en Équateur. Bonjour Ernest.
Bonjour, Johan.
Vous êtes à Paris, nous vous écoutons.
Oui, bonjour, Johan. Bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI. Depuis deux semaines, des milliers de manifestants sont mobilisés dans les rues de Quito pour dénoncer la hausse de plus de 120% du prix du carburant. Au terme de plusieurs négociations, le gouvernement et les indigènes trouvent un accord. Et comment expliquer cette marche en arrière du gouvernement équatorien? Et est-ce dû à la médiation des Nations Unies et de l'Église catholique?
Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Ernest, bonjour Juan.
Journaliste au service international de RFI. Je le disais hier, donc le président Moreno qui abroge cette loi qui est à l'origine d'une contestation sociale sans précédent dans ce pays. Comment expliquer ce rétropédalage?
Oui, alors en fait le compromis qui a été annoncé, qui a été trouvé dimanche soir, annoncé par le représentant de l'ONU en Équateur, en fait surpris tout le monde. Les deux parties campaient en fait chacune sur leur position. Juan, pour le président de la Confédération des nationalités indigènes d'Équateur, Jaime Vargas, il n'était pas question d'accepter un amendement du fameux décret 883. Vous savez, c'était le décret qui prévoyait justement la hausse du prix de l'essence qui a provoqué
cette vague
de manifestations, colère, oui. Exactement. Donc lui, il voulait pas un amendement comme le proposait le président qui revendiquait son abrogation pure et simple. Le président Lénine Moreno, lui, refusait jusqu'au début des négociations un compromis. Les dirigeants indigènes finalement n'ont pas relâché la pression. Tant que le décret n'est pas retiré, eh bien nous, on va pas négocier, et les manifestants se poursuivront, a expliqué Jaime Vargas. Donc une stratégie maximale et une pression maximale sur le gouvernement et le président Moreno qui, rappelons-le, s'est retiré en fait de la capitale. Il s'est réfugié dans une autre ville.
Il a fui le palais présidentiel face à la grogne et la colère.
Et à la violence des manifestants. Donc premier recul symbolique du gouvernement avant donc le recul et le retrait de cette mesure.
La stratégie des indigènes, qui représentent tout de même 25% de la population, s'est révélée payante, d'autant que l'action des manifestations commençait à avoir un véritable impact sur l'économie, sur la vie quotidienne.
Absolument, oui, parce qu'il y a eu des barrages routiers, il y a les puits pétroliers qui étaient à l'arrêt, donc il y a des magasins fermés, des écoles fermées, c'était un pays qui était à l'arrêt pendant presque 2 semaines. Alors, petite précision, la communauté indigène représente seulement 7% de la population.
Ah, 7%. J'ai lu un peu partout dans la presse, 25% de la population.
Oui, c'est vrai que c'est une information qui a circulé, mais en fait, après vérification, c'est 7%. Donc finalement, on mesure l'impact de cette population, de 7% de la population, de cette population des communautés indigènes pour faire plier le gouvernement de Lénine Moreno.
Ouais. Ernest nous demandait, est-ce que cette marche arrière du gouvernement est due à la médiation des Nations Unies et au rôle de l'Église catholique?
Alors, il y a certainement, les Nations Unies ont joué un rôle important en tant que facilitateur, l'Église catholique aussi, l'Église catholique qui est l'institution la plus respectée dans le pays, l'Équateur étant un des pays les plus catholiques d'Amérique latine, avec 95% de croyants, de pratiquants. Les négociations dimanche dernier ont eu lieu dans un cadre religieux, dans le centre de spiritualité Saint Patricio à Quito. Donc un cadre qui a facilité le compromis, mais je pense que ce qui était vraiment eu un impact important, c'était la pression de la communauté indigène qui a finalement fait savoir qu'elle n'acceptait pas un compromis au rabais et qu'elle demandait le retrait pur et simple de cette mesure extrêmement impopulaire et qui aurait touché de plein fouet la communauté indigène, qui était la communauté la plus pauvre, en fait.
Reste à savoir maintenant comment réagira le FMI, puisque cette réforme a été d'une certaine façon imposée par le FMI, qui en échange notamment de la fin des subventions au carburant, proposait un prêt de plus de 4 milliards de dollars à l'Équateur, et l'Équateur a besoin de cet argent pour renflouer les caisses de l'État et renflouer les dettes. On aura l'occasion certainement d'y revenir. Ernest, a-t-on répondu à vos questions?
Bien sûr, Juan. Merci beaucoup et merci à votre invité.
Il s'appelle Harim Lipold et il est journaliste au service international de RFI. Bonne journée à tous les deux. Simon Rosé. Alors, Simon Rosé est un habitué d'Appel sur l'actualité. Bonjour Simon.
Bonjour Juan.
Journaliste au service santé sciences de RFI. Vous étiez l'un des envoyés spéciaux la semaine dernière à la conférence de reconstitution du Fonds mondial. On a reçu beaucoup de réactions la semaine dernière. On reçoit des questions après les Et la fin de cette conférence qui était très importante. Médard, bonjour.
Oui, bonjour, Juan, et bienvenue à Bobé-Calavi.
Merci de nous accueillir au Bénin. Quelles sont vos questions?
La 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial contre le VIH, la tuberculose et le paludisme est tenue la semaine dernière en France. Mmh. Des propositions de dons se sont élevées à 14 milliards de dollars. Alors, ma préoccupation est de savoir si cette somme de 14 milliards est-elle considérée comme suffisante pour lutter efficacement contre ces maladies? Et sait-on comment ces fonds vont-ils être redistribués?
Simon Rosé, l'objectif minimal fixé avant la conférence a été atteint, mais Médard pose une bonne question. Est-ce que 14 milliards de dollars sur 3 ans suffiront pour éradiquer ces 3 maladies à l'horizon 2030?
Ben, on va dire que c'est le minimum, hein, parce que 14 milliards, c'était effectivement l'objectif qui avait été fixé par Peter Sands et Emmanuel Macron en janvier, au moment de l'annonce justement de cette somme. Les associations, elles, demandaient 16 milliards, 18 milliards, l'ONU lui-même s'était prononcé plutôt vers un chiffre de 18 milliards. Comme vous l'avez dit, ce sont des fonds qui sont récoltés pour une période de 3 ans, donc là en l'occurrence c'est 2019-2022. Sur la précédente session 2017-2019, on était à 12,2 milliards. Donc oui, il aurait fallu plus. 14 milliards, c'est un minimum. Sincèrement, à l'heure actuelle, je vois pas, ayant été à Lyon et vu comment s'est passée cette levée de fonds, comment on aurait pu faire beaucoup plus que 14 milliards. Il y a des pistes qui sont évoquées pour la prochaine conférence de reconstitution. Les pays du Golfe sont encore de légers donateurs, on va dire, alors que bon, évidemment, ils auraient les moyens de donner plus. L'Amérique latine et centrale, il n'y a aucun État donateur. La Russie ne donne pas. La piste de se rapprocher de la FIFA ou du CIO travaux de grands organismes sportifs internationaux comme ça, qui ont de l'argent également, est évoqué. Donc 14 milliards, c'est un record. C'est bien.
C'est ça bien. Aurait pu être mieux, mais c'est le bien. Président Macron a dû mouiller la chemise, hein, sa chemise pour arriver à cette somme.
Il y avait un peu de jeu, il y avait un peu de jeu d'acteurs aussi, mais la France a fait l'effort. Elle était très attendue au tournant, puisque sur la précédente reconstitution, donc la cinquième, la France était le seul pays du G7 à ne pas avoir augmenté sa contribution, donc elle était vraiment attendue au tournant. La France a augmenté sa contribution de 20% par rapport à la dernière fois. C'était là, encore une fois, bien là le minimum de ce qu'il fallait.
Sait-on comment les fonds vont-ils être redistribués?
Donc ça va suivre le processus classique du fonctionnement du Fonds mondial. En fait, ce sont les pays qui vont se tourner vers le Fonds mondial avec un projet. Le fonds qui va examiner ce projet, le co-construire avec ces pays et ensuite libérer les fonds. On donne pas juste l'argent comme ça à des gouvernements et ils en font ce qu'ils veulent. Non, il y a vraiment c'est conjoint, c'est un processus conjoint. Ce qui fait que le fonds est quand même assez réputé, il y a une très bonne réputation justement pour cette capacité de bonne utilisation des deniers qui lui sont confiés. Sur le terrain, concrètement, comment ça va se présenter? Un peu comme aujourd'hui, avec le financement de programmes, d'achat de médicaments, des priorités qui sont quand même fixées pour la prochaine période, notamment concernant le VIH et destination des femmes et des jeunes filles en Afrique subsaharienne qui sont deux fois plus concernées que les hommes par le VIH. Donc il va y avoir des programmes de prévention en particulier qui vont être mis en place. Sur le paludisme, casser la chaîne vraiment de transmission entre les humains et les moustiques, donc ce sera encore plus de moustiques à imprégner, ce genre de choses. Grosso modo, l'Afrique reçoit à peu près 70% des fonds du Fonds mondial. L'Asie du Sud-Est, 20%, et le reste se partage entre l'Europe de l'Est, l'Amérique latine.
Merci beaucoup, merci de cette synthèse, Simon Rosé. Médard, bonne journée à Abomey Kalavi, et merci de nous avoir appelés. On termine avec Delvi, qui est au Congo-Brazzaville. Il nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour Delvi.
Bonjour Juan, bonjour à tous, et un grand bonjour à votre formidable équipe au Standard.
Merci de vos encouragements, et merci de les saluer. Quelles sont vos questions, Delvi?
La semaine passée, c'est ouvert à Guitéra, le procès contre les présumés assassins du premier président burundais, Nikéor Dadaé. Un premier procès avait déjà eu lieu en 93. Et comment expliquer la tenue de ce deuxième procès?
Bonne question que vous posez, Delvi. C'est vrai que c'est un procès présenté comme historique. Ezra Zikoumana, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. Delvi a raison, il y avait déjà eu un premier procès en 1993, après l'assassinat du premier président démocratiquement élu au Burundi.
Oui, il y avait déjà eu un premier procès. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce premier procès a lieu en 93. Nous sommes en pleine guerre civile. Alors, l'armée est toujours dominée par l'ancienne élite Tutsi. Donc, et c'est elle qui est accusée d'avoir tenté d'assassiner, d'avoir assassiné le président lors de la tentative de coup d'État de 93. Et donc, il y a un procès, mais c'est un procès dit des exécutants, parce que ceux qui sont condamnés au final, c'est deux lieutenants et quelques sous-officiers.
Donc, aucun haut gradé de l'armée de l'époque qui était cité dans l'affaire n'avait été inquiété.
Aucun n'a été inquiété à l'époque. En plus de ça, il y a eu un accord de cessez-le-feu, un accord de paix qui ont accordé à tous les militaires de l'armée burundaise, à tous les rebelles, une immunité. Voilà. Et donc, du coup, personne n'a été poursuivi.
Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que le pouvoir décide d'organiser, donc, ce deuxième procès?
Alors, ce qui a changé aujourd'hui, c'est vraiment 2015, la crise de 2015 qui a changé la donne au Burundi. Pendant longtemps, il y a eu l'équilibre entre l'ancienne armée dominée par la minorité Tutsi et les ex-rebelles Hutus qui sont aujourd'hui au pouvoir. Grosso modo, 50% de l'armée et la police. Mais la crise de 2005 va donner à Nkurunziza et à son équipe, le président Pierre Nkurunziza, va leur donner tous les pouvoirs en main à cause d'une répression féroce qui va frapper dans tous les sens. Et donc, désormais, ils ont eu le pouvoir, ils ont tout le pouvoir en main, et donc ils ont pu organiser le procès de leurs anciens ennemis.
D'accord. Faut-il y voir peut-être une arrière-pensée politique? Ça n'échappe à personne que ce procès démarre à 8 mois de l'élection présidentielle?
Oui, absolument. En fait, ce qui se passe, c'est que le candidat Nkurunziza annoncé qu'il ne va pas se représenter. Son candidat aura fort à faire face à Agathon Rwasa, qui est aussi un ancien rebelle Hutu, qui est aussi populaire dans le pays. Alors, ce qui se passe, c'est que le candidat du CNDD-FDD, le président Nkurunziza, après 14 ans de pouvoir, le pays est en crise, surtout crise économique. Juste un dernier exemple, c'est que aujourd'hui, 71% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est autant ou plus que lorsqu'il est arrivé au pouvoir.
Il y a donc 13 ans. Absolument. Merci beaucoup, Ezra Zikoumana. Reste avec nous tout de suite, le journal.